Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Bonjour tout le monde, ici René Cochot. Bienvenue à la librairie Cochot, là où on n'a pas peur de prendre quelques livres. Voici le menu pour cette semaine. Une entrevue avec la libraire Nathalie Savard, propriétaire de la librairie Le Coin du Livre à Ottawa. Karine Côte-Noir, copropriétaire de la librairie Le Repère à Granby, nous parle des nouveautés à surveiller. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druide présente l'album illustré « Une cabane dans les arbres » de Marie-France Hébert et Mathieu Lampron. Mélissa Durand, libraire jeunesse à la librairie Monet à Montréal, parle des auteurs et des autrices qu'elle admire le plus. Une entrevue avec Annie-Claude Thériault concernant son recueil de nouvelles « Les disparitions » publié chez Marchand de feuilles. Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs à Sherbrooke, parle de ses choix comme livres à placer en vitrine. Une librairie à Tanger au Maroc vient en aide aux personnes qui vivent en milieu défavorisé. L'autrice Vanessa Courville rend hommage aux libraires. Isabelle Dion de la librairie Aninorak présente le livre jeunesse Le chandail orange de Mia, publié chez les éditions de Lisatis. Et découvrons la librairie Joie de lire à Genève, en Suisse, en 1966, grâce à un document d'archives. Bienvenue à la librairie Cochot.
Boîte verte au bord de la rivière, gardien d'histoire sous la lumière, page jaunie, temps conservé au cœur de Paris, trésor préservé, bouquiniste, mémoire vivante, sur les quais de la Seine mouvante, entre Notre-Dame et le Louvre, le passé que le présent découvre, main ridée qui feuillette avec soin, livres anciens, cartes de chemin lointain, poètes oubliés, contes d'autrefois, dans ces boîtes qui s'ouvrent avec joie. Patrimoine mondial, tradition séculaire, résistant au temps, au numérique amer, roman sur papier, gravure exposée dans l'âme de Paris, les bouquinistes restent ancrés. Bouquinistes, mémoire vivante, sur les quais de la Seine mouvante, entre Notre-Dame et le Louvre, le passé que le présent découvre. Touristes passent, certains s'arrêtent, contemplent le fleuve, murmure des histoires qui ressemblent à un Paris d'écrivains et d'amants, de cafés, d'art, de moments marquants. Bouquinistes, mémoire vivante, sur les quais de la Seine mouvante, entre passé et futur, ils résistent, les gardiens d'un Paris qui persiste à préserver l'âme dans les livres qui racontent des secrets éternels et libres. Bouquiniste, mémoire vivante, sur les quais de la Seine mouvante, entre passé et futur, ils résistent, les gardiens d'un Paris qui persiste à préserver l'âme dans les livres qui racontent des secrets éternels et libres.
Nous poursuivons à la librairie Cocho notre tour d'horizon des différentes librairies indépendantes au Québec, mais également ailleurs au Canada, entre autres en Ontario. Là, on va faire un tour à Ottawa, alors que je vais m'entretenir avec Nathalie Savard, qui est la propriétaire de la librairie Le Coin du Livre. Elle est propriétaire depuis 2022. C'est son père qui l'a entraînée dans cette belle aventure en 1988, mais il faut dire que la librairie Le Coin du Livre a vu le jour à Ottawa en 1958. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans cette librairie. Madame Savard, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Très bien, merci.
Merci d'avoir accepté donc cette invitation à parler de votre travail de libraire à la librairie Cocho. Alors, j'ai le goût de vous demander dans un premier temps dans quelles circonstances êtes-vous devenu libraire, parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas, disons, la première chose à laquelle vous aviez pensé.
Bien non. Un petit peu d'historique, c'est que Le Coin du Livre a débuté en 1958 avec 4 propriétaires. En Ottawa, nous étions des francophones, franco-ontariens, on était minoritaires. Eux, ils vendaient les livres aux patrouilles au centre-ville d'Ottawa pour dans des valises, okay, pendant le bingo. Ensuite, ils ont ouvert Pignon sur rue sur King Edward. Et mon père a commencé à travailler pour eux en 1967. Mon père, Normand Savard, il a commencé à travailler en 1967 et c'est lui qui a apporté le côté scolaire. Donc, il y avait beaucoup de connaissances puis des gens qui connaissaient dans le milieu scolaire. Et en 1988, il a fait l'acquisition de la librairie puis il m'a demandé si j'embarquais dans l'aventure. Moi, je m'en allais douanière, celle qui entraîne les animaux dans les aéroports.
Ouais,
loin du métier de libraire, mais toujours eu la passion de la lecture parce que mon père a toujours été dans la librairie. Donc, les livres, j'avais toujours accès à ça, puis c'était une passion pour moi. Donc, il m'a demandé si j'embarquais dans l'aventure. J'ai dit oui, avec plaisir. Puis, je vais me faire un mandat de pouvoir promouvoir la lecture francophone à Ottawa, dans les écoles, avec les clients, parce qu'on est toujours côté minoritaire. Hein? Mm-hmm. Donc, à Ottawa, beaucoup de gens lisent en anglais, mais moi, je me suis mis comme devoir de promouvoir la lecture francophone. Et je fais ça depuis 1989.
Bon, vous avez, j'imagine, établi une clientèle. Est-ce que le défi principal est d'attirer les lecteurs chez vous, alors qu'il y a d'autres librairies de l'autre côté de la rivière là, qui offrent le même type de service? Là.
Oui, c'est sûr, mais quand tu établis un bon réseau, et je peux dire que les Franco-Ontariens sont assez serrés, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent mes connaissances en tant que libraire. Donc, mes clients ne sont pas des numéros, mais bien des personnes individuelles, que ce soit les écoles, les conseils scolaires ou mes clients à la librairie. Donc, j'ai dessert, même si je suis le propriétaire, j'ai toujours desservi ma clientèle. J'aime être impliquée et j'aime pouvoir donner le goût de la lecture. Donc, beaucoup sur les réseaux sociaux, je donne des conseils. Donc, c'est une priorité pour moi de pouvoir faire ce métier-là et j'adore promouvoir la lecture.
Bon, parlons de cette longévité, une librairie qui existe depuis 1958. J'imagine qu'il y a des hauts et il y a des bas sur le plan administratif et financier. Vous avez toujours réussi à vous maintenir à flot.
Oui, d'ailleurs, on a passé la pandémie, ça c'est un bonus,
ouais. Mm-hmm.
Parce que mon père n'était pas le monsieur informatique, hein, donc tu sais, il est né en 42, donc veut pas, il était toujours à la mitaine, à la plume, puis quand j'ai rentré mon partenaire Benoît avec moi, parce que il est très bien, très bon en informatique, c'est lui qui a établi le côté informatique dans la librairie. Puis moi, ben j'ai étudié en marketing parce que mon père m'a toujours dit, même si tu viens travailler au Coin du Livre, puis j'ai fait l'acquisition, tu as besoin d'un bac. Donc moi, j'ai décidé de faire mon bac en marketing. Puis c'est vraiment un atout, puis j'adore ça. J'adore promouvoir la lecture, j'en parle beaucoup. Je fais des chroniques de livres, j'ai fait des chroniques à la radio, à la télévision. Puis c'est une passion pour moi, donc c'est très facile de faire ça.
Alors, je poursuis mon entretien avec Nathalie Savard, qui est la propriétaire de la librairie Le Coin du Livre à Ottawa. Alors, vous organisez évidemment de multiples séances de signature avec des auteurs de la région. Vous tenez des événements spéciaux. Comme vous l'avez mentionné, vous avez des chroniques littéraires. Vous participez aux foires de livres dans les écoles. Quel est l'état des lieux en ce qui a trait à la littérature francophone à Ottawa et ailleurs au pays? Parce que vous vous faites un devoir là, de faire la promotion de la culture canadienne-française.
Je peux dire que plus qu'on en parle, plus que c'est visible, les gens, parce qu'on a beaucoup d'écoles francophones, hein, donc, tu sais, juste à Ottawa, on a environ 80 et plus d'écoles francophones primaires, secondaires, donc, puis on fait ça au travers de l'Ontario. Donc, plus qu'on en parle, plus le monde va le lire. Puis moi, c'est une fierté de savoir, parce que souvent, je dis aux clients, venez me voir au magasin avec vos enfants, puis vous allez voir, je vais trouver de quoi pour eux pour lire, parce que les enfants n'aiment pas lire ou des choses comme ça. Puis je réussis toujours, puis c'est une fierté que quand on a la petite table dans l'épaule, dire, hey, merci madame, mon enfant, à cause de, grâce à vous, il lit maintenant. Donc, tu sais, c'est valorisant. Puis j'adore pouvoir promouvoir la lecture. Donc, pour moi, si je continue, puis même deux ans, l'année passée, on a rasé de fermer parce que l'ancien propriétaire où ce qu'on était sur Serville voulait augmenter notre loyer le double. Puis j'ai trouvé un autre bijou au 2200 chemin Montréal. Puis c'est le meilleur déménagement que j'ai pu faire. On a beaucoup de gens, on a de la place pour accueillir des auteurs. Puis on est comme un centre culturel. Donc pour nous, donner l'opportunité à nos clients, nos lecteurs, de rencontrer des auteurs. Puis c'est pas parce qu'on est juste une petite librairie à Ottawa qu'on peut pas avoir des auteurs. On a eu Louise Tremblay-Dessiam. On a plusieurs auteurs locaux. On essaie de promouvoir. Puis le 25 septembre s'en vient pour le livre franco-ontarien. Donc, pour moi, c'est une très grande campagne pour démontrer les auteurs franco-ontariens, les éditeurs franco-ontariens. Puis, tu sais, j'habille, j'ai des cubes. Sont remplis de tapissiers de drapeaux de franco-ontariens. On met un genre de calendrier de l'Avent avec Joli Franco. À tous les jours, on va mettre un livre en vedette. Donc, c'est vraiment promouvoir la lecture, c'est un atout pour moi. Puis quand tu es passionné, ben ça fonctionne bien puis c'est facile.
Est-ce qu'on pourrait dire que le coin du livre est devenu l'endroit incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent à la littérature franco-ontarienne et franco-canadienne?
Je crois qu'on est devenu un pilier, puis même si on est, comme il y avait juste trois librairies franco-ontariennes de propriétaires franco-ontariens en Ontario, puis j'ai essayé d'aider Librairie Panache au moment donné à Sudbury. On est chanceux parce qu'on a les écoles qui nous appuient aussi. Donc, sans les écoles, les librairies peuvent pas survivre beaucoup parce que c'est une grosse part de marché de notre gagne-pain. Donc, avec l'encouragement de nos écoles, nos conseils scolaires, bien, c'est facile pour nous de pouvoir survivre. Puis oui, la communauté franco-ontarienne, ils nous appuient beaucoup. Puis Lucile Collard essayait de mettre une loi pour nous protéger, justement, comme la loi 51 au Québec. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Les gens, on a parlé de nous et les gens le savent.
Les clients qui fréquentent votre librairie, le coin du livre, sont principalement basés à Ottawa ou si vous ratissez plus large?
Non, on va plus large. On va plus large, puis avec notre site web, on touche beaucoup la communauté franco-ontarienne, peu importe où, au travers du Canada.
Le sentiment qu'ont les francophones qui vivent à Ottawa ou en Ontario de s'intéresser à la littérature franco-ontarienne ou franco-canadienne, il est fort?
Très fort. Puis j'ai eu la belle surprise en avril d'avoir gagné le prix Saphir, l'entrepreneuse de l'année. Donc ça, j'étais comme émouvée, c'était comme toutes les émotions j'ai eu une année difficile en 2025, puis c'était vraiment une belle surprise pour moi, puis c'est montré que je fais bien mon ouvrage. Je suis passionnée, donc c'est facile pour moi de le faire, puis c'est le fun de savoir qu'il m'appuie.
Absolument. Bien, parlez-moi de ce prix, Nathalie Savard. C'est quoi au juste?
Bien, le prix Saphir, c'est un prix désigné aux femmes francophones au travers de l'Ontario. Ça s'est passé au Collège Boréal, donc je sais qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Puis c'est le premier prix que le Coin du Livre reçoit. Donc, c'était tout un honneur pour moi. Puis je l'ai mis fièrement dans la librairie, affiché fièrement dans la librairie.
Ben, je vous comprends de l'afficher fièrement. Bravo, Nathalie Savard, donc, d'avoir poursuivi en fait le travail de votre père et de faire en sorte que cette librairie, Le Coin du Livre, basée au 2200 Chemin Montréal à Ottawa, poursuive son essentiel travail, entre autres, de promotion des auteurs franco-ontariens, fondée en 1958, cette librairie. Et, bon, je pourrais dire, longue vie au Coin du Livre.
Ah, c'est sûr, parce que on va continuer à promouvoir la lecture. C'est tellement important. La lecture, c'est la base de la grammaire, du vocabulaire, du savoir-faire. Un livre, c'est comme un trésor. On découvre plein de choses. Et les enfants, surtout, c'est là que ça débute. Puis j'ai toujours dit, dès la naissance, mettez un livre dans les mains de vos enfants. Puis vous allez voir, ils vont avoir des bonnes notes à l'école. Puis le français, la francophonie, il faut le garder vivant. Donc, non, c'est sûr que je vais continuer à faire la promotion de nos livres franco-ontariens. Je fais ça, puis j'ai une grande sélection de livres franco-ontariens que je garde en tout temps en magasin. C'est important pour moi. Puis après ça, c'est tous les livres canadiens. Donc, on a tellement des bons auteurs ici au Canada. Pourquoi pas en faire la promotion?
Bien, tellement. Merci beaucoup, Mme Savard.
Bien, ça me fait plaisir.
Bonjour, ici Karine Côte-Noire de la librairie jeunesse Le Repère à Granby. Qu'est-ce qu'on pense de la rentrée littéraire actuelle? Bien, on est toujours bien énervé ici avec les nouveautés. C'est pas rare là, qu'on arrive muni d'un exacto près de la boîte d'office à sortir le papier pour voir ce qu'il y a dedans. Là. Même moi qui fais tous les achats, je m'en rappelle plus quand il arrive. Là. Je suis très heureuse quand ça arrive. Il y a des belles nouveautés. C'est sûr qu'il y a une grosse nouveauté de cet automne qui sera un incontournable. C'est en littérature générale, mais c'est le nouveau Michel Jean. Nishim qui parle des réalités autochtones, c'est super important. Mais on est aussi vraiment excité de Pierre, d'Élise Gravel, qui s'en vient. Un nouveau tout carton d'Élise Gravel. Ça, on est toujours très énervé de ça. Et sinon, ben, le nouveau Geneviève Janelle qui est sorti récemment est tout simplement extraordinaire.
Jean-Yves Mollier a écrit le livre « Histoire des libraires et de la librairie » aux éditions Actes Sud. Dans cet ouvrage, il explore l'univers des librairies à travers les 5 continents, un voyage depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. L'historien aborde la diversité des lieux choisis, des petites librairies de quartier aux plus grandes. À ses yeux, le livre demeure un objet de rêve et d'évasion. Voici un extrait d'une entrevue qu'il accordait pour la librairie Mola.
Alors j'ai noté d'abord comme première mutation le fait que la librairie aujourd'hui, c'est un commerce tenu par des femmes. Majoritairement, il y a encore des hommes, mais les hommes étaient ultra-majoritaires jusqu'à la Première Guerre mondiale. De plus en plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis les années 2000, ce sont les femmes qui l'emportent. Deuxième mutation, alors les femmes, c'est intéressant parce qu'elles sont obligées, au fond, d'innover, de prouver qu'elles font au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que les hommes. Et elles l'ont prouvé dans bien des domaines, notamment dans la librairie de jeunesse et dans toute une série d'autres compartiments de la librairie. La deuxième mutation, c'est évidemment l'apparition des liseuses, l'apparition des fichiers numériques. La librairie s'adapte. Au fond, pour lutter avec Amazon, la librairie invente également des sites sur lesquels, eh bien, les clients peuvent choisir d'acheter un livre et ensuite de venir le retirer à la librairie ou de le recevoir directement de leur libraire. Demain, on verra peut-être des clients venir télécharger, donc en quelque sorte acheter un livre qui apparaîtra sous une forme non matérielle, mais sous la forme d'un fichier dans une clé USB. Et puis, il faut aussi anticiper et se dire qu'après tout, le fichier numérique cédera peut-être la place à un autre moment, dans 50 ans ou dans un siècle, à une autre forme. Au fond, l'important n'est pas là, l'important c'est que le livre demeure et qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui aient envie de le transmettre.
D'œil sur les nouveautés littéraires.
Écoutons Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Druide, parler de l'album « Une cabane dans les arbres » de Marie-Francine Hébert, illustré par Mathieu Lampron.
Oui,
suis heureuse de vous présenter cet album qui s'intitule « Une cabane dans les arbres ». C'est un titre qui a été travaillé sur plusieurs années, je vous dirais bichonné, sagement mûri. C'est un texte de Marie-Francine Hébert qui a été illustré par Mathieu Lampron. Marie-Francine Hébert, sa réputation n'est plus à faire. C'est une grande écrivaine en littérature jeunesse. Elle a la réputation d'être audacieuse. Et ici, elle va récidiver avec un texte qui est tout en finesse, en délicatesse, en densité et qui aborde le thème difficile de la séparation, mais bien, bien à hauteur d'enfant. Mathieu Lampron, lui, il travaille comme illustrateur depuis une vingtaine d'années, puis son titre le plus connu, c'est peut-être l'album intitulé « Qui va bercer Zoé », qui est un texte d'André Poulin, qui l'a illustré, puis qui a été finaliste au prix TD, au prix Harry Black et au prix Peuplier. Donc, cet album-ci, c'est un album destiné aux enfants du primaire, 36 pages illustrées. Qu'est-ce qui se passe dans cet album? Bien, tout d'abord, d'entrée de jeu, l'année scolaire se termine. Anna et Polo, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont se revoir parce que cet été, les parents d'Anna se séparent, puis elle va aider papa à déménager dans une deuxième maison où il va y avoir, au joie, plein de nouvelles choses et surtout une cabane dans les arbres. Mais Polo, lui, il est désemparé parce que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, il ne fera pas de voyage en famille. Ses parents ne se séparent pas, mais eux, ils se disputent souvent en silence avec les yeux. Alors, Anna et puis Polo, ils vont rêver ensemble au jour où ils vont jouer dans la fameuse cabane dans les arbres. Et surtout, ils espèrent que jamais ne se brisera leur précieuse amitié. Donc, vous voyez, ça aborde un thème qui est délicat, difficile à aborder. Je vous rassure, c'est pas l'apologie de la séparation, ce n'est pas ça, mais ça existe, alors c'est bien de le traiter. Les illustrations sont expressives, les teintes sont douces, puis ça rend très bien la sensibilité du texte. Ce texte qui est fin et dense, comme je disais. Ça aborde, oui, la séparation, d'abord celle des parents, puis aussi la crainte de perdre ses amis, puis aussi d'autres thèmes puissants, là, comme la solidarité, l'écoute, le jeu. Donc, je vous dirais qu'en résumé, c'est un album pour aider les petits puis les grands à traverser l'épreuve de la séparation, tout en demeurant unis, surtout, 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 en demeurant unis.
C'était Anne-Marie Villeneuve des éditions Druide qui présentait l'album Une cabane dans les arbres de Marie-Francine Hébert, illustré par Mathieu Lampron.
Le papier journal a jauni, l'encre ne coule plus. Le libraire en sursis, les lecteurs ont disparu, fini les unes de scandale, les magazines de papier glacé, le rideau tombe sur le tabac, la loi a tout fait s'envoler. Il reste là, derrière sa vitre, dans son aquarium de métal, il scanne des étiquettes dans un silence de cathédrale. Ce n'est plus un marchand, c'est un gardien de secrets. Un passeur de carton empilé au sommet. Il regarde ses boîtes brunes, des noms mais pas de visage. Et il s'invente des voyages.
Bonjour, ici Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse et je travaille pour la librairie Monet. Quel auteur ou autrice vous impressionne le plus? Du côté québécois, une autrice que j'aime beaucoup, c'est Madame André Poulin. Bon, je ne serai pas très originale, elle est déjà très connue. Néanmoins, elle a une capacité de cibler des enjeux sociaux et des enjeux d'enfants qui sont quand même très pointus. Elle a une belle façon d'amener ces histoires-là. D'ailleurs, il y a un livre récemment qui est sorti qui est « Comment sauver des chevaux sauvages ». Il a gagné le prix des libraires. Ce livre-là, dans le fond, c'est un des rares qui parle de comment les enfants ont un pouvoir politique dans une société. Et ça me fait plaisir parce que c'est la nôtre. C'est des jeunes qui se sont mobilisés pour défendre les chevaux sur les lots sables de tout âge et de toute province. Ça me vraiment fait plaisir. Tous les libraires, on l'aime, ce livre-là. Et c'est ça que je veux dire par quand ça nous impressionne, ben quand les auteurs ont cette sensibilité-là d'aller chercher des histoires et d'être capables de nous les formuler pour nous émouvoir, c'est vraiment très bien. Je citerai également Madame Lydia Desjardins, qui reste à ce jour quand même une personne qui défend les relations saines dans les romans et aussi la littérature dite pour filles, même si techniquement ça n'existe pas. C'est une personne qui est quand même en train de valoriser des très belles choses pour ce groupe de filles qui est quand même toujours un petit peu cantonné au monde de la romance. On a des progressions à faire sur le sexisme, selon moi. Et sinon, je vais juste une petite mention générale pour tous les auteurs de tous les autres pays qui réussissent à percer le monde un peu hermétique du livre francophone. Je suis toujours impressionnée parce qu'on a vraiment des pépites qui nous viennent des quatre coins du monde et ça fait vraiment plaisir.
Moi, j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peillot, de Bondy, de Sempé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint, habiter un champi avec des petits hommes bleus et faire tout le temps la teuf avec Gargamel au milieu, coincé dans les chiottes, le schtroumpf à lunettes et Agnan, leur enlever leur binocle pour que Ricky tape dedans et puis rejoindre Gaston et se taper un bœuf au bureau, faire une course en patin avec Jules d'en face et Lucien, rendre Prunelle tout rouge au moment où de Messmaker vient signer ses contrats pendant que la Jeanne s'en va en l'air, prendre des cours de chimie avec le comte de Champignac, ou mieux des cours dessin avec le beau Lebrac, demander à Spirou d'emmener faire un tour en turbo et planter Fantasio et son côté vieillot, jouer au vengeur masqué avec Alceste et Nicolas, se barrer dans les bois et se faire une soirée pyjama avec Sylvain Sylvette et Syl Bouillon vient nous faire chier. J'appelle Benoît Brisevert pour lui faire une tête au carré. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peillot, de Bondy, de Sempé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint. Puis je rends visite à Petroni qui recherche ses gamins, je branche Samy et Soda s'ils peuvent lui filer un coup de main. Avec Jérôme K, Jérôme Bloch, on commence l'enquête. Tintin se met sur le coup avec les quatre, assez c'est chouette. Puis là, change de décor, je me barre au Far West et je me tape des faillots avec Bloodshell, Capitaine Stark. Quand Lucky Luke arrive, Joe Dalton trépine, juré peste devant Jolly Jumper qui se marre avec Spip et Oscar. Astérix et OB me proposent un sanglier, mais j'opte pour les crêpes de la grand-mère Jojo trop sucrée. On se fait une partie de foot avec Wick et Fluke et le poule. Léon Latreur nous rejoint et c'est là que c'est parti en couille. L'orge Magoquine aura sur une île protégée des cons, avec le funeste qui bastonne Achille Talon. On se fait des chipots avec ce sacré Guéluron. On s'en met une correcte avant qu'Arthur nous arrête. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peillot, de Bondy, de Sempé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint. C'est vrai que depuis le début, j'ai pas beaucoup cité Nana, mais c'est pour Pat Martin Véron.
Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Cochot.
Balade d'une âme, je l'ai par l'hiver, la remise en question de tout l'univers, l'impression que les réponses se trouvent dans des larmes, pour tourner la page d'une histoire infâme. Les premières éclaircies auraient dû me prévenir de l'éclair qui s'abat quand Cupidon va venir. Le printemps, par principe, c'est un nouvel avenir. Cette femme et cette rencontre, je ne pouvais le prédire. Le même train, même wagon, siège 32, elle siège 36. Elle est belle et sensible, des regards changent de sens. Si je prends un courage insensé, je me lève lui parler de manière romancée. Pourvu que tu aimes écouter mes poèmes, pourvu que tu viennes me voir chanter sur scène, pourvu que tu sois douce, gentille et saine. Je pourrais faire le tour du monde, la chercher sur chaque seconde. Madeleine, dis-moi où tu es, que je puisse te retrouver. J'écouterai tes peines, tes mots, je resterai ton soutien. Si l'amour est dans les mots, j'en écrirai des bouquins. Oh, 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 j'en écrirai des bouquins. Ah oh, ah oh, sans rendez-vous, pour une fois je suis à l'heure. On parle de rien et tout, nos bonheurs, nos malheurs. On se balade ensemble, on fait un tour en ville. La flamme brûle à l'essence de mon cœur fragile. Je veux qu'elle soit ma gonzesse, qu'on rigole, qu'on s'embête. Check tes pas, une princesse, tu connais les tempêtes. Pas un as, souvent je perds, je crois que j'ai gagné. On pourrait faire la paire. C'est qu'un petit son toutou qui parle d'un rendez-vous. Mon cœur monte dans les tours. J'ai rencontré l'amour. Je pourrais faire le tour du monde, la chercher sur chaque seconde. Madeleine, dis-moi où tu es, que je puisse te retrouver. J'écouterai tes peines, tes mots, je resterai ton soutien. Si l'amour est dans les mots, j'en écrirai des bouquins. Oh, 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 j'en écrirai des bouquins. Oh, oh.
L'autrice Annie-Claude Thériault signe un recueil de nouvelles intitulé « Les disparitions » aux éditions Marchand de Feuilles. Ces récits nous transportent sur des îles et des lieux isolés. L'insularité et l'isolement sont le fil conducteur de toutes les nouvelles. J'ai demandé à Annie-Claude Thériault, qui m'a accordé une entrevue pour la librairie Cochot, pourquoi elle avait choisi d'écrire des nouvelles plutôt qu'un roman, comme ses trois livres précédents.
Oui, bien, en fait, je pense que je suis vraiment une nouvelliste dans l'âme. J'ai commencé à écrire, j'écrivais des nouvelles, puis j'écris toujours des nouvelles, en fait. Puis je pense aussi que mes romans précédents avaient aussi un peu ce souffle-là, des chapitres courts, des histoires un peu distinctes les unes des autres. Donc, je retourne à mes vrais amours.
Bon, et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la nouvelle?
Plusieurs choses. Peut-être d'abord, j'aime beaucoup la forme, donc j'aime l'idée de pouvoir construire des petites histoires brèves, courtes, puis donc on peut beaucoup jouer dans une petite histoire comme ça avec des débuts qui ramènent à la fin. J'aime beaucoup le plaisir de jouer avec la forme dans la nouvelle, puis de devoir faire une espèce d'accroche un peu. Ça, je trouve ça excitant, mais aussi peut-être d'un point de vue plus personnel, je pense que je suis particulièrement quelqu'un qui... Par exemple, quand j'écris un roman, j'ai toujours envie d'aller ailleurs. Donc, ce projet-là, il est né, j'écrivais un roman sur une île, mais là, j'étais intéressée par 5 autres îles, 6 autres îles. Donc, je pense que ce petit côté-là de moi, puis j'avais toujours envie d'écrire autre chose que le roman que j'étais en train d'écrire parce que je trouvais que l'histoire de cette île-là était meilleure. Je pense qu'il y a un petit côté comme ça aussi que je suis un peu boulimique. Là, j'ai comme envie de faire plusieurs choses. Puis dans un recueil de nouvelles, ben là, j'ai pu avoir le plaisir d'en faire 7 différentes.
ça m'amène à ma prochaine question. Pourquoi avoir choisi l'insularité et l'isolement dans les disparitions?
Oui, je pense que c'est... premièrement, l'image de l'île, hein, ça nous habite tous, là, Robinson Crusoe. Il y a quelque chose dans notre imaginaire qui est fasciné par les îles, par leur côté mystérieux, sauvage, difficile d'accès. Donc, il y a comme un côté à la fois sauvage et charmant aux îles. Puis j'aimais cette contradiction-là. Que j'ai voulu aussi mettre d'un côté plus social. Là, sur une île, on est à la fois très isolé, très seul, mais en même temps dans une communauté qui est très soudée, très forte.
Ouais.
Mais des fois, cette communauté-là nous étouffe aussi. Des fois, on aimerait mieux être anonyme. Donc, j'aimais, pour l'île, je trouvais que c'était une belle métaphore, une belle image dans notre imaginaire collectif. Là, c'était bien de pouvoir jouer à la fois symboliquement, d'un côté du territoire, mais aussi comme socialement. Fait que je trouvais ça très inspirant. Puis quand je me suis mise à m'intéresser aux îles, bien là, je trouvais toutes sortes d'histoires qui se passaient sur des îles qui en fait répondaient à cette intuition-là que j'avais eue. Puis là, j'étais « Ah, waouh, faut que je fasse quelque chose avec ça!
» Bon, il y a la solidarité des personnes insulaires, mais il y a également la préoccupation environnementale qui est en toile de fond.
Oui. Ben oui, il y avait, tu sais, un grand thème qui traverse tout le recueil, c'est les disparitions. Puis une des grandes disparitions dans notre société, sur la planète en ce moment, c'est la disparition, donc, effectivement, du territoire dans le sens où nos berges s'érodent, les forêts brûlent. Environnementalement, ça ne va pas bien. Donc, il y avait ce souci-là, ouais, de parler de ça, puis d'une autre manière, peut-être qu'on en entend habituellement parler, tu sais, d'un point de vue des habitants d'une île qui voient leur village disparaître ou qui voient leur berge s'éroder. Je me disais que c'était quelque chose de quoi il fallait peut-être parler, puis de voir comment on peut aussi... il y a un côté un peu optimiste en moi, là. Il y avait l'idée que les habitants, ils sont résilients. On sait pas comment s'y prendre, mais on veut bien sauver la planète, là.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent là, de la lecture de ces 7 nouvelles disparitions?
En fait, premièrement, qu'on passe un bon moment, j'espère. C'est un peu ça, la littérature aussi, c'est d'être porté ailleurs, sortir de soi, notre propre vie. Mais ultimement, ce serait ça, je pense. Ce serait cette idée-là que c'est à nous à donner sens à ce qui se passe autour de nous. C'est à nous de nous révolter, c'est à nous d'aimer, c'est à nous de continuer pour les générations qui viennent. Donc, un peu redonner le pouvoir à l'être humain. Je prends ça d'une de mes tantes qui vivait des événements qui étaient très tragiques, mais qui était toujours la première à rire devant un bébé qui pleure ou devant une situation. Donc, je me dis, il faut qu'on garde un peu ça. Il faut se transmettre ça, cette espèce de joie humaine-là qui nous appartient. Tu sais, c'est donc un peu comme se redonner le pouvoir à nous-mêmes.
Ben voilà, belle mission. Annie-Claude Thériault, ça a été un plaisir de discuter à nouveau avec vous donc de cette nouveauté que vous signez aux éditions Marchand de Feuille, le recueil de nouvelles Les Disparitions. Merci beaucoup.
Ben, encore une fois, merci.
Juste quelques mots pour dire qu'on s'aime quand tout est beau. T'oublies que tu saignes, le vent et les oiseaux reflètent l'océan, et les nuages pleins de vie, où est-ce qu'ils nous sèment? J'ajuste les mots des longs problèmes, et s'illustrent les mots des longs poèmes. Les rimes elles fusent comme des éclairs, et elles s'infusent dans les rivières. Petit poème, l'abeille est triste, elle butine le pollen. Comme une artiste, elle suit ses rêves, c'est ça qu'elle aime. Elle rêve de fleurs, de doux poèmes. Petit poème, l'abeille est triste, elle butine le pollen. Comme une artiste, elle suit ses rêves, c'est ça qu'elle aime. Elle rêve de fleurs, de doux poèmes. C'est ça qu'elle aime, elle rêve de fleurs, de doux poèmes. Petit poème, l'abeille est triste, elle butine le pollen. Comme une artiste, elle suit ses rêves.
Écoutons Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke.
Comment on choisit les livres à mettre en avant en vitrine ou sur les tables? Bien sûr, on reçoit des livres à tous les jours en librairie. À certains moments, plus que d'autres, aux rentrées littéraires, par exemple, ou le 12 août, on a beaucoup de nouveautés qui sortent. Fait que c'est sûr que ce qu'on va mettre de l'avant, ça va être les nouveautés. Donc, on va vraiment essayer sur nos tables, on va mettre nos nouveautés pour essayer d'avoir un peu un roulement puis essayer de donner une vie au livre. Parce que des fois, tu sais, il y a un livre qui va sortir, puis deux semaines après, il y a plein d'autres livres qui sont sortis, puis on est déjà obligé de le rayonner. Puis en rayon, bien, c'est sûr qu'il va avoir une moins bonne vie parce qu'on voit juste la tranche. Puis les gens, s'ils voient juste la tranche, sont bien moins amenés à fouiller puis à essayer de chercher que quand ils voient le livre, la couverture du livre sur la table. Donc, on essaie vraiment de donner comme une belle vie au livre en le laissant sur les tables le plus longtemps possible. Donc, voilà. Ensuite, ben pour ce qui est de plus les sections thématiques, ben on va souvent mettre de l'avant en fonction du moment de l'année. Par exemple, au mois de février, on fait toujours une section « Mois de l'histoire des Noirs ». Donc, on va mettre de l'avant des littératures écrites par des auteurs-autrices noirs et des essais aussi qui vont mettre de l'avant ces questions-là. Même chose pour le mois de juin, qui est un gros mois parce que c'est le mois des fiertés, puis c'est le mois en juin, je lis autochtone. On va faire toujours une section de littérature autochtone, puis une section de littérature queer, autant dans le jeunesse que dans l'adulte. Donc, ça va être beaucoup ça qui va un peu déterminer les sections qu'on met de l'avant. Puis ensuite, ben, on a toujours ici à la librairie une section coup de cœur qui est derrière la caisse. Donc, on met les coups de cœur des 4 libraires. On a chacun notre tablette. On a à peu près 5 livres qui rentrent. Et là, ben, c'est en rotation nos derniers coups de cœur. Ben, là, ça arrive que c'est tellement nos coups de cœur qu'on les vend toutes. Fait que là, on les a plus. Fait qu'il faut mettre un autre coup de cœur. Fait que on fait notre rotation de coups de cœur comme ça, au mur. Donc, c'est vraiment au fil des lectures des libraires. Puis ça arrive que pendant un mois, les coups de cœur ne changent pas parce qu'on a lu plein de livres, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Ça arrive. C'est plate, mais ça arrive. Donc, c'est ce qui détermine un peu ce qu'on va mettre de l'avant sur les tables dans la librairie.
Maï Bénédine, célèbre artiste marocain, dirige une librairie à Tanger au Maroc. Son projet, aider les jeunes en difficulté dans son quartier. Voici un extrait d'un reportage de TV5 Monde partagé dans les médias sociaux qui nous parle de son approche.
C'est dans cette petite librairie de Tanger que Maï Bénédine a décidé d'emménager. Un peu à l'étroit entre les livres, il a pu faire une place pour ses toiles. Elles sont la prolongation de son œuvre littéraire et de son dernier livre, Fou du roi. Stéphanie, la libraire, lui a prêté un bout de son mur. Comme lui, elle aime mélanger littérature, art, photographie. Et surtout, comme Maï, elle défend la nécessité de parler à un public trop souvent ignoré, la jeunesse.
C'est leur montrer toutes les fenêtres et les portes qu'ils peuvent ouvrir en connaissant, en questionnant, en étant curieux, en apprenant. Et si eux ne viennent pas à la librairie ou ne viennent pas dans les lieux de culture, c'est aux lieux de culture d'aller les voir.
C'est ce que fait Maï dans le quartier populaire de Beni Makkada. Il y a 3 ans, il a créé une association culturelle, les Étoiles du Détroit. Il espère ainsi faciliter l'accès à la culture aux jeunes défavorisés. Lecture, peinture, chant, danse. Ici, l'art sous toutes ses formes est la bienvenue. Un espace de liberté pour 200 jeunes de tous âges qui permet aussi de découvrir les talents de demain. Ici, comme dans le centre qu'il a ouvert à Casablanca, on cherche à lutter contre l'islamisation radicale et la pauvreté dans ces quartiers. Alors, Maï se bat pour faire briller d'autres étoiles un peu partout au Maroc.
Bonjour, je m'appelle Vanessa Courville, je suis autrice de poésie et j'aime particulièrement le travail des libraires parce que non seulement ils font circuler les œuvres québécoises, mais aussi parce qu'ils finissent par nous connaître, hein, puis dresser des espèces de profits, puis nous faire lire les choses en fonction de nos préférences. Et ça, ça me plaît beaucoup chez les libraires indépendants, ce qu'on ne trouve pas ailleurs.
Elle est libraire à la librairie Annie Norak et elle se spécialise dans la littérature autochtone. Isabelle Dion.
Isabelle Dion, responsable de la production aux éditions Annie Norak et libraire à la librairie Annie Norak, bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, on va s'intéresser à quelque chose qui s'est établi au pays, à savoir... Le port d'un chandail orange, c'est le 30 septembre, c'est la journée du chandail orange et cette initiative a pour but de nous rappeler les tristes pensionnats autochtones et c'est abordé dans un magnifique album illustré aux éditions de Lisatis qui a pour titre Le chandail orange de Mia. Alors, parle-moi de la beauté de cet album et évidemment de ce que tu as apprécié de cette façon de présenter aux jeunes cette réalité.
Oui, ben en fait, effectivement, c'est un livre qui est sorti début septembre, en fait, pour le mois de la réconciliation, mais aussi pour la journée du 30 septembre, qui est une journée qui prend de plus en plus d'importance dans le quotidien ou dans les écoles. Bref, c'est une journée qu'on souligne pleinement. Cela dit, moi, en tant que libraire, j'ai souvent des commentaires de professeurs qui viennent me voir et qui cherchent désespérément des outils ou du moins du matériel pour pouvoir bien expliquer aux jeunes la réalité, justement, des pensionnats. Il y en existe, là, quelques-uns, mais il n'en existe pas beaucoup, en fait. Okay. Ce qui existe déjà est souvent plus disponible du côté du Canada anglais. Donc, pour moi, un livre comme ça, c'est vraiment un beau cadeau que les éditions de Lisatis nous offrent parce que c'est vraiment nouveau, là, dans le paysage littéraire québécois d'avoir un outil important comme ça. Donc, c'est un livre qui est écrit par Wenda John Kewin. Elle écrit. Les illustrations sont faites par Erika Rodriguez Medina. Je tiens à le mentionner parce que c'est absolument magnifique. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de très, très simple, très épuré là, dans le visuel, mais vraiment très joli. En fait, on va vraiment à l'essentiel avec des illustrations comme ça, je trouve. Donc, c'est vraiment un album qui part de la base, donc qui pose la question comment est-ce qu'on peut parler des pensionnats autochtones aux enfants. Comme je l'ai dit, c'est un album qui est essentiel, mais ce qui est vraiment génial dans ce livre-là, c'est qu'on est vraiment à hauteur d'enfant parce que on met en scène, en fait, une enfant qui s'appelle Mia et qui adore l'heure du conte. Mais ce jour-là, en fait, elle va se rendre compte que dans le livre que sa mère lui lit, il est mis en scène, en fait, une petite fille autochtone qui est envoyée loin de chez elle et ça va la bouleverser, en fait, complètement. Elle va demander, en fait, à sa mère si ça peut lui arriver à elle aussi. Mmh. Et ça va être l'occasion, justement, de pouvoir expliquer tout ce qui entoure les pensionnats, pourquoi ça pourrait plus lui arriver en 2025, mais pourquoi c'est encore important d'en parler, parce que c'est une histoire qui est encore actuelle, en fait, du moins les répercussions de ce pan de l'histoire-là, c'est encore très important dans l'histoire autochtone. Donc, j'aime vraiment sa façon d'aborder, justement, à hauteur d'enfant, le traumatisme générationnel qui pèse encore aujourd'hui, justement, sur les membres des Premières Nations. Et je trouve que c'est une façon aussi pour l'autrice d'ouvrir un chemin de compréhension qui est vraiment marqué par l'empathie, par l'espoir, qui est finalement symbolisé par le chandail orange, qui est un signe de mémoire et de solidarité envers les enfants, mais pas que. Mais c'est bien de se rappeler toujours à quoi ça sert de porter un chandail orange. Donc, c'est pas une mode, c'est pas un mouvement, c'est vraiment un signe d'empathie et de respect pour cette cause-là qui continue encore de marquer des générations. Donc, vraiment chapeau aux éditions de Lisatis pour cet album jeunesse qui s'adresse aux 4 ans et plus, mais ma foi, on va y trouver une utilité pour pas mal tous les âges, selon moi.
Ben oui, absolument. Le chandail orange de Mia, c'est de Wenda John Kewin et aux illustrations Erika Rodriguez Medina, traduction de Christiane Duchesne, aux éditions de Lisatis. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
La petite librairie au coin de ma vie. La petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves d'hier, les mots de lumière. La petite librairie reste dans mon cœur. Les au fond de ma mémoire.
Notre coup d'œil sur les archives nous amène cette fois en 1966 en Suisse, grâce à un reportage disponible dans les médias sociaux produit par la radio-télévision suisse. À quelques jours de la fête de Noël en 1966, l'émission littéraire En toutes lettres entreprend la visite d'une librairie bien particulière, La Joie de lire, fondée à Genève en 1937. Voici un extrait de ce reportage.
Mais voyez-vous, ce qu'il y a de surprenant et de sympathique, c'est qu'il existe à Genève, et je pense que cela doit être très exceptionnel, il existe à Genève une librairie spécialisée dans le livre d'enfants. Monsieur Robert, c'est presque un apostolat, c'est à la fois du commerce et de la psychologie, cela.
C'est presque plus la psychologie que du commerce. Le côté commerce intéresse moins que choisir vraiment un livre qui plaise à l'enfant, car nous avons comme principe ça doit plaire avant de rapporter. Dans, de nos jours, où surtout on aime avoir, eh bien non, c'est être qu'il faut dire, penser. Il faut penser que l'enfant, par le cadeau qu'il recevra, sera touché sans qu'on le sache, soit au point de vue esthétique, soit au point de vue réaction de l'histoire qu'il lira.
Bon, nous allons faire le tour tout à l'heure de quelques-uns des livres que les parents peuvent acheter aux enfants. Mais tout d'abord, essayons de répondre à quelques questions. D'abord, le livre d'enfant commence à quel âge et à quel âge finit-il pour devenir un livre d'adulte?
Ah, vous me posez une question capcieuse. Il est facile de vendre un livre d'enfant tout petit parce que, comme ils ne savent pas lire, ils regardent. Et c'est plus un livre d'image qu'un livre de compréhension. L'âge moyen, c'est dès qu'on sait lire, bien sûr, jusqu'à 12 ans, c'est encore facile. Là où ça devient plus difficile, parce que l'enfant est plus difficile aussi, c'est le récit lui-même. Est-ce que l'auteur, ça c'est une autre question, répond à ce que l'enfant attend de lui? Actuellement, on développe ce côté presque d'adulte, d'amener l'enfant dans les librairies générales.
Oui, qui achète les livres, les enfants ou les parents?
C'est presque plus les parents que les enfants, à vrai dire. C'est presque plus les parents.
Bon, lorsqu'on achète un roman ou un livre d'histoire, nous autres adultes, nous disons « je veux tel livre, je veux Le Goncourt, je veux Le Féminin ». Je pense que ça ne doit pas être la même chose lorsqu'on vient acheter un livre d'enfant.
Pas du tout la même chose. D'abord, ils ont toujours la possibilité de changer, ce qui est une garantie pour celui qui acquiert le livre. Mais l'enfant ne sait pas encore exactement ce qu'il veut. Quand on vient nous dire, il a 6 ans, vous savez, il est très avancé. D'abord, tous les enfants sont avancés, c'est connu. Et puis, à part cela, ils nous disent, mais il a tout lu. Permettez, je garde mes observations pour moi, mais à 6 ans, on est loin d'avoir tout lu.
Garçons et filles lisent-ils la même chose?
Pas du tout. Pas du tout. Il y a des petites filles qui disent à ma secrétaire, écoutez, donnez-moi quelque chose qui me fasse pleurer. C'est curieux. Il y en a d'autres, au contraire, qui veulent que des choses pour rire et s'amuser. Ce que nous aimons, c'est qu'on soit décidé, est-ce que c'est la science, est-ce que c'est déjà la littérature générale.
Umberto Eco comparait le livre à ses inventions que rien ne peut surpasser. Le livre est comme la cuillère, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les avez inventés, vous ne pouvez pas faire mieux. Une sentence qui donne à la librairie la noblesse d'une forge ou d'un atelier.
Et bien voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La Librairie Cocho. Je m'appelle René Cocho et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La Librairie Cocho.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croit que la vie a pleines dents. Brûle toutes cartouches en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète se meurt de temps en temps. Ce n'est pas la cohue à l'enterrement. Juste quelques amis, quelques parents. On n'a pas alerté les présidents. Un poète se meurt de temps en temps. un poète se meurt de temps en temps. On ne retrouve pas de testament, encore moins d'héritier, de prétendant. Seule est là la compagne des jours sans. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant, et ça n'est jamais très très bien pensant. À la moindre injustice, ça va gueulant contre les cons, le vice et les puissants. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Ça ne craint ni l'exil, ni les tourments. Ça écrit quand t'es grand le dénouement, avec la dernière goutte de son sang. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, ça vit très très longtemps. Si j'ai dit le contraire, apparemment, c'est que les mots, c'est bien changeant. S'ils sont dits au passé ou au présent, un poète, sa vie très très longtemps. Un poète, sa vie très très longtemps. On ne compte le nombre de ses enfants. Il en est chaque hiver, chaque printemps, qui la gloire du prophète vont chantant. Un poète, sa vie très très longtemps.